ngenibingelele nonke egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Igama lami mina ngingumalusi ngwakaphungula ngokudabuka ngisuke eMaritzburg endaweni yaseMbali.
Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici mon nom, Kumbula, je viens de Pietermaritzburg. Je voudrais remercier pour l'occasion qui m'est donnée, bien que j'ai les genoux qui tremblent, mais je veux utiliser cette occasion de témoigner. Je fais partie de ceux qui on appelle les drogués, les alcooliques. Et la drogue principale que je prenais est le wanga. C'est une drogue typiquement sud-africaine. C'est une drogue où ils mélangent toutes sortes de produits. Quand j'ai commencé à fumer, déjà à l'école primaire, j'ai commencé à fumer la cigarette. Ensuite, plus tard, la marijuana, la chiche et plus tard le mandrax. Et l'alcool faisait déjà partie de ma vie, déjà jeune, à 5, 6 ans, quand les aînés buvaient la bière ou toutes sortes d'autres boissons alcoolisées. Et alors ils me présentaient le pot de bière et alors je buvais déjà. Et au lycée, alors les choses ont empiré. Je faisais partie des cancres, ceux qui ne pouvaient pas écouter les professeurs, et alors j'ai commencé à ce moment-là les cambriolages avec des amis dans la région de Pietermaritzburg. Donc je commettais un certain nombre de cambriolages, aussi occupé avec vol de voiture. Et alors j'étais constamment envoyé en prison et je ressortais. Et alors que j'étais en prison, je rejoins le gang de ce qu'on appelle les 26. Et alors j'aimais me battre. Mais lorsque je me suis retrouvé en prison, les membres du gang m'ont donné un nom. On donnait un surnom. Et alors que j'étais en prison, ce gang m'a aussi donné un livre, un manuel, il y a 260 pages, qui donne la réaction à tenir en cas de problème. Et de retour à la maison, on a essayé, la famille, les communautés, ont essayé d'arranger les choses, de rétablir les relations qui avaient été brisées, mais sans résultat. J'ai quand même réussi à finir mon bac, même si c'était difficile en raison de la drogue et de l'alcool que je prenais. Donc j'ai pu aussi passer mon permis et j'ai commencé à travailler donc en 2003. Et en moins moins de 4 ans. Je me suis retrouvé dans toutes sortes de problèmes en raison justement de mes addictions à l'alcool et à la drogue. Et une fois que j'ai été renvoyé, ça n'a pas pris beaucoup de temps, environ un mois, j'ai retrouvé du travail. J'ai pas tenu 3 ans dans ce travail que j'ai été de nouveau renvoyé. Et d'une manière ou d'une autre, j'arrivais toujours à trouver du travail, mais ça ne durait jamais très longtemps à cause de mon addiction à la drogue et à l'alcool. À la maison, ma famille se donnait au culte des ancêtres et alors j'achetais un animal que je sacrifiais et d'une manière ou d'une autre, cela m'aidait aussi pour retrouver du travail. Et j'avais remarqué chaque fois, que chaque fois que je faisais un sacrifice aux ancêtres, d'une manière ou d'une autre, c'est à ce moment-là, ça coïncidait avec la fin de mon travail, lorsque j'étais renvoyé. Alors j'ai discuté avec mon père, et j'ai dit, papa, si je retrouve un travail, je ne sacrifierai plus aux ancêtres. Mais cela ne m'a pas aidé plus que ça. Je n'arrivais pas à retrouver du travail. Et quand j'ai remarqué que je ne trouvais pas de travail, alors je me suis dit, si c'est comme ça, eh ben je vais aller encore plus en avant, une fuite en avant dans cette vie de drogué. Et alors, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre du Wanga, en 2009. Et alors, à cause de cette drogue, les choses ont vraiment empiré. Par exemple, je n'arrivais pas à dormir si je ne prenais pas cette drogue. Et une nuit, je n'arrivais pas à dormir. Alors je me suis dit, puisque je n'arrive pas à dormir, il vaut mieux que j'aille voir mon dealer parce qu'il me faut ma dose. Et alors que j'étais auprès de mon dealer, j'ai entendu une conversation de d'autres drogués qui étaient là et qui discutaient entre eux d'un endroit où certains avaient été à Kwasi Zabantou. Et alors cela a fait chemin dans mon cœur et je me suis dit, comment est-ce que je peux payer pour aller à Kranskop parce que j'ai une vie de drogué, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de travail. Et alors j'ai entendu qu'il y avait un bus, que la mission envoyait un bus à Pietermaritzburg et que j'ai possibilité de prendre cette navette. Et alors ce désir a grandi dans mon cœur, désir de venir ici un jour. Et en juin, j'ai eu l'occasion donc de prendre un de ces bus qui emmenait les jeunes à la conférence pour les jeunes. Et donc j'ai pris ce bus et j'ai pu participer à la conférence de jeunes de cette année-là, en juin. Et à la fin de la conférence de jeunes, je suis reparti. Mais dans mon cœur, je savais que je n'avais pas coupé avec cette drogue. Je n'avais pas dit au revoir avec cette drogue. Mais dans mon cœur, il y avait encore ce désir, cette oui, ce désir pour fumer cette drogue. Et donc, avec l'argent que j'avais et quelques petites choses que j'ai pu vendre, j'ai réussi à rassembler 1000 randes. Et je me suis dit, bon, avec cet argent, je vais m'acheter quelques doses de drogue et avec ce qui me restera, je vais quand même le garder pour financer un retour, pour faire partie de ce programme de CIPSA. Mais malheureusement, j'ai tout dépensé pour acheter de la drogue. Je n'ai pas économisé quoi que ce soit. Alors j'ai dû me retourner vers un frère pour me dire « Donne-moi de l'argent pour que je puisse aller à Sisamontou. » Et c'était pourtant un frère qui lui aussi prenait de la drogue et de l'alcool. Et il ne voulait rien savoir de Dieu. Mais j'avais un autre frère qui était venu dans le passé, dans la mission, mais qui est policier. Quand je me suis allé le voir en disant « Est-ce que tu peux m'aider, donner un peu d'argent, je vais retourner à la mission ?» Il a dit « Non, je ne veux rien savoir. » Lui aussi ne voulait rien savoir. Mais par contre, avec l'argent, il s'est assuré, avec l'argent qu'il avait, il s'est assuré qu'il achetait beaucoup d'alcool pour que nous puissions boire et profiter de l'alcool ensemble. Et un soir, une nuit, je ne sais pas ce qui s'est passé, alors que nous étions occupés à boire ensemble, que j'étais sous, je l'ai alors blessé grièvement, gravement, au point où il était près de mourir, mon propre frère. Mais je remercie le Seigneur parce qu'il a permis que je trouve une manière pour pouvoir revenir ici. Ce qui est impossible à Dieu, aux hommes, est possible à Dieu. Si Dieu a un plan pour toi, s'il a quelque chose, un but avec ta vie, alors assure-toi qu'il trouvera le moyen de l'accomplir, même si cela paraît impossible. Il y a un verset qui est cher à mon cœur. Donc 1 Corinthiens 15, 26. Dieu dit, le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Parce que j'étais mort. Et aujourd'hui, je suis vivant. La mort n'a plus d'aiguillon parce que cette mort a été transformée en vie. Et par la grâce de Dieu, à sa manière, il m'a été possible donc alors de revenir ici. Et l'assemblée qui est à Pietermaritzbourg, j'ai pu aller rejoindre cette assemblée à Pietermaritzbourg. Et au travers des frères là-bas et des sœurs, c'est de cette manière que j'ai pu rejoindre le programme de CIPSA ici à la mission. Je vais remercier Dieu, remercie aussi Pasteur Stegen, Oncle Erlo et Aunt Lydia pour leur obéissance et pour l'œuvre qui existe aujourd'hui à travers leur obéissance. J'ai dans le passé, même plusieurs fois, tenté de me suicider parce que je me suis dit, mais il n'y a pas de but. Je n'ai plus de but dans la vie, il n'y a aucune utilité à vivre. Mais à travers leur obéissance et à travers ce que le Seigneur a fait dans ma vie, je suis sorti de la mort, où le Seigneur a transformé la mort en vie. Et après être venu, on m'a encouragé à retourner et mettre en ordre ma vie. Et on m'a même encouragé en disant ne sois pas apeuré que lorsque tu vas retourner, mettre en ordre, peut-être tu vas être arrêté, peut-être tu vas être mis en prison ou les gens vont être fâchés avec toi. Mais c'est important que tu mettes ta vie en ordre et que tu retournes mettre en ordre. Et alors j'ai pu ainsi mettre ma vie en ordre, j'ai pu même détruire un sac rempli de médicaments que j'avais préparé pour me suicider. Parce que je m'étais même dit, ah, je vais mettre ma vie en ordre et puis je vais mourir. Alors j'aimerais encourager vous, les jeunes gens, si vous n'êtes pas sérieux en venant ici, alors soyez sérieux quand vous mettez votre vie en ordre. Et moi-même, j'ai eu l'expérience, quand je suis retourné auprès de mes anciens acolytes de ma vie passée, alors ils ont même changé mon nom, ils ont commencé à m'appeler pasteur. Et une chose qui a été mentionnée les dernières semaines, en rapport avec le nouveau programme d'éducation sexuelle qu'ils veulent mettre en place dans les écoles, c'est quelque chose dont les gens ne sont pas au courant. Et je le mentionne parce que si c'est quelque chose qui est mis en place, alors il y aura des conséquences. Il y aura des grossesses junévéniles et toutes sortes d'autres conséquences liées à cela. Notre loi actuelle en Afrique du Sud encourage ou permet l'avortement. Et j'aimerais donc encourager ceux, celles qui ont recours à cela. Peut-être que les tombes de ces enfants ne sont pas des tombes, mais les toilettes ou le fossé. Mais le Seigneur fait grâce, alors venez à lui. Peut-être, toi, tu te dis, non, ce n'est qu'un fœtus, ce n'est rien. Mais sache que chacun de ces enfants a une âme, et que Dieu te demandera des comptes. Et si les choses me le permettaient, j'aimerais tellement pouvoir prendre mon bâton et aller d'école en école et parler avec les professeurs, leur donner des prospectus pour les avertir des conséquences de ce changement.